divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Sylvestre Huette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialisé en sciences. Vous avez travaillé pour le journal Libération de 1995 à 2016. Votre blog sur les sciences est aujourd'hui hébergé par la plateforme du journal Le Monde. Et vous y publiez des articles tout aussi passionnants les uns que les autres. C'est pour ce travail de médiation et d'analyse de ce qui se joue entre les sciences, l'économie et la politique que nous vous avons décerné le prix de l'Union rationaliste en 2014, Union rationaliste dont vous êtes aussi membre. Si je vous ai invité aujourd'hui à l'antenne de l'Union rationaliste, en ce mois de septembre 2021, c'est qu'est paru, en août 2021, le rapport du groupe 1 du GIEC, dont vous avez, sur votre blog, émis un compte-rendu en le mettant en perspective par rapport au rapport précédent, dans un article intitulé modestement « Le rapport du GIEC en 18 graphiques ». Ma première question porte donc sur le GIEC, ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui a su imposer ses conclusions depuis plus de 30 ans. Alors, Sylvestre Huette, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez, vous, du GIEC, de sa fiabilité, de ses modalités d'organisation ?
L'origine du GIEC est souvent mal comprise. Elle se place en 1988, lorsque le G8 de l'époque, qui était dominé par Reagan et Thatcher, décide de demander à l'ONU de mettre en place ce groupe. Dans l'esprit des dirigeants des États-Unis et du Royaume-Uni, il s'agissait de ne pas laisser à l'administration de l'ONU la maîtrise de l'expertise scientifique du sujet, ce changement climatique, qui arrivait à cette époque-là sur le bureau des chefs d'État et de gouvernement. Mais de soumettre cette expertise à un processus où, pensait-il, les États auront le dernier mot lors des assemblées plénières du GIEC, lors de l'adoption finale de ces textes. C'est du moins ce qu'il croyait. Mais la nécessité de faire appel à la communauté des climatologues et des météorologistes pour réaliser ce travail de synthèse critique de la science et les contradictions entre les différents gouvernements de la planète vont se retourner contre cet objectif. Et c'est pourquoi, depuis le premier rapport du GIEC en 1990, on observe ce phénomène qui peut étonner. Tous les gouvernements ont toujours adopté par consensus le résumé pour décideur des rapports, le seul texte qui est voté en réalité en assemblée plénière. Et ce résumé pour décideur, depuis le début, est en réalité un reflet assez fidèle, même très fidèle, des rapports complets, lesquels sont toujours restés sous la maîtrise complète des scientifiques. C'est assez étonnant parce que cela veut dire que même les gouvernements les plus hostiles à une politique climatique sérieuse, comme ceux des Bush aux États-Unis ou ceux des pays exportateurs de pétrole, tous ces gouvernements n'ont jamais dit à leur délégation de voter contre ces résumés pour décideurs lorsqu'ils étaient adoptés en séance plénière. Mais il convient aussi de ne pas se tromper sur le mandat du GIEC. On dit souvent « le GIEC recommande, préconise ». Non, ce n'est pas possible. Le GIEC ne peut rien préconiser, il ne peut rien recommander, il n'en a pas le droit. Le GIEC doit répondre à deux questions. Première question, la menace climatique est-elle assez forte pour justifier une politique de privation volontaire de l'usage des énergies fossiles, qui constitue 80% de l'énergie utilisée depuis la révolution industrielle, et donc le carburant du développement économique. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est quels sont les moyens permettant de s'adapter à la part inéluctable de cette menace, parce qu'on ne peut plus l'empêcher, et les moyens qui permettraient quand même de l'atténuer dans ce qu'il est encore possible de faire. Alors, pour faire répondre à ces questions, le GIEC doit analyser les publications scientifiques qui les concernent et en exposer ce qu'on appelle les conclusions pertinentes pour la décision politique évidemment. Mais il n'a pas pour mandat de recommander une quelconque politique.
Policy prescription, c'est toute la différence entre une pertinence pour guider l'action publique ou des prescriptions de politique publique. Or, le GIEC, c'est précisément des guides.
Absolument. Il doit apporter les éléments qui permettent aux décideurs politiques, d'entreprises, aux citoyens, de prendre les décisions. Les rapports du GIEC sont toujours sous la forme « si, dans le futur, vous émettez tant de gaz à effet de serre, alors le changement climatique aura telle figure, il aura telle menace pour vous ». Et dans le groupe 3 du GIEC, voici quelles sont les différentes politiques possibles au niveau technologique, au niveau social, politique, économique, qui permettent d'atteindre tel ou tel objectif en matière d'émissions de gaz à effet de serre et donc tel ou tel niveau de changement climatique et de menace.
Alors justement, vient de paraître le rapport du groupe 1 du GIEC. Est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs de France Culture les groupes 1, 2 et 3 et leurs différentes modalités et ce qui se joue dans le groupe 1?
Le groupe 1 s'occupe de la physique du climat. Comment le climat a été dans le passé, comment il est aujourd'hui et comment il sera demain en fonction de différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Le groupe 2 s'occupe des conséquences pour les sociétés humaines et les écosystèmes naturels et agricoles du changement climatique en cours et évidemment analyse les conséquences et les risques en fonction des différents scénarios pour le futur. Quant au groupe 3, il s'occupe des moyens susceptibles d'atténuer cette menace en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. Le rapport dont nous parlons, qui a été publié en août, ne concerne que le travail du groupe 1.
Est-ce que vous pourriez nous faire ressortir ce qui vous semble déterminant, Sylvestre Huette, dans chacune des rubriques, il y en a 5, de ce rapport du groupe 1?
Alors d'abord, ce rapport souligne que l'évolution des connaissances a été très importante depuis le rapport de 1990 et que les connaissances sont beaucoup plus solides, les observations du changement climatique beaucoup plus précises, de même que les prévisions du changement climatique futur en fonction des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Au fil des rapports, l'appréciation du risque climatique a été beaucoup plus précise et malheureusement, il n'y a eu aucune bonne surprise. Le deuxième aspect du rapport, c'est simplement de décrire le changement climatique en cours, celui qui est déjà mesuré. On est déjà à 1,2 degré C de température moyenne de la planète qui a en augmentation par rapport à la période pré-industrielle, pour fixer les idées, disons 1750. Le niveau des océans continue de monter, mais en s'accélérant sous l'effet de la fonte des glaces, de la dilatation thermique des eaux qui chauffent, et de la fonte des calottes polaires au Groenland et en Antarctique. La durée et l'extension de l'enneigement hivernal a considérablement diminué dans l'hémisphère nord. On note déjà des migrations d'espèces sauvages, animales comme végétales, en réaction aux changements géographiques qu'on observe. On observe une multiplication des vagues de chaleur, l'acidification des océans, l'extension des zones anoxiques sans oxygène dans les océans. On observe que les trajectoires des cyclones, notamment en Atlantique, commencent à évoluer sous l'effet de ces changements. On observe qu'il y a une augmentation de la quantité de vapeur d'eau qui est contenue dans l'air, ce qui est la première explication à l'augmentation du caractère dévastateur des pluies diluviennes. Mais on observe aussi des périodes de canicule qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus élevées et qui ont des conséquences, par exemple, sur la santé humaine ou sur la production agricole. Donc, quant à la cause de ces changements, il n'y a aucun doute, elle est unique. C'est l'intensification de l'effet de serre de la Terre qui est liée à le changement dans la composition chimique de l'atmosphère qui est provoqué par nos émissions de gaz à effet de serre, CO2 et méthane, qui proviennent pour l'essentiel de la combustion du charbon, du gaz et du pétrole. ce qui est très
clair maintenant. Qui est d'origine anthropique.
Ouais, bien sûr, la combustion par nos machines, dans nos usines, par nos voitures. Si on continue comme ça, on dépassera une augmentation de la température moyenne planétaire de 4 degrés C. Ça provoquerait une transformation géographique de la planète extrêmement rapide, extrêmement violente et extrêmement menaçante pour les sociétés humaines. Ce qui fait que si on veut éviter cette transformation et par exemple se limiter à un réchauffement qui serait entre 1,5 degré et 2 degrés, il faudrait laisser entre 60 et 80% des ressources fossiles dans le sous-sol, ce qui n'est pas possible sans des changements considérables dans nos manières de produire, de consommer et de vivre.
Mais alors là, très précisément, si on voit assez clairement que la maison brûle, et nous verrons les préconisations du groupe 3 du GIEC sur les politiques à conduire pour diminuer ces menaces, ces préconisations se heurteront à des États désunis, à des politiques qui n'ont rien de vraiment commun. Dès lors, comment peut-on se satisfaire de ce hiatus où les scientifiques voient les menaces venir et constatent aussi l'inaction des politiques?
C'est vrai qu'il y a un énorme paradoxe. Ça fait 30 ans que les gouvernements signent les rapports du GIEC. Et ça fait 30 ans qu'on suit la pire des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre envisagées dans le rapport de 1990. Je crois que pour comprendre cette contradiction, il faut prendre conscience du fait que pour diviser par 4 ou 5 nos émissions, ce qui est nécessaire d'ici la moitié du siècle ou la fin du siècle, soyons raisonnables, pour éviter un dérapage climatique au-delà de 2 degrés, en réalité, ça ne peut se faire sans une sorte de double révolution. D'abord, il faut évidemment une révolution technologique, puisque cela signifie qu'il faut se passer de l'essentiel, 80% de l'énergie que nous utilisons, parce qu'elle est d'origine fossile et carbonée. Donc il faudrait que 80% ou 90% de l'énergie que l'humanité utilisera à la fin du siècle, elle soit d'origine uniquement des énergies renouvelables, naturelles et des énergies nucléaires. Ce sont les deux seules sources d'énergie qui sont massivement décarbonées et qui sont susceptibles de nous permettre de vivre, de produire, d'habiter, de se chauffer ou de se refroidir quand c'est nécessaire, autrement qu'avec du gaz, du pétrole et du charbon. Mais on voit que cette révolution technologique est totalement insuffisante. Et il faut aussi que les bientôt 8 milliards d'êtres humains optent pour des modes de vie qu'on pourrait qualifier de sobriété volontaire. Il faut aussi qu'ils organisent leurs activités productives dans le cadre d'une planification où les critères climatiques seraient décisifs dans les décisions politiques, dans les décisions des entreprises, dans les décisions de consommation des consommateurs, pour organiser la vie collective, la production, l'urbanisation, bref, tout ce qui fait la vie quotidienne des gens. Or, on se rend compte que cette sobriété volontaire, c'est pratiquement impossible de l'obtenir comme décision collective dans des sociétés profondément marquées par les inégalités sociales, par l'existence de gros patrimoines qui font que les populations ont en permanence sous les yeux le mauvais exemple. C'est-à-dire que lorsqu'il existe une sorte de caste, de mince caste à l'échelle mondiale, de population qui n'a aucune limite à ses consommations d'énergie et de matières premières et d'objets manufacturés parce que ses moyens financiers le lui permettent, alors c'est extrêmement difficile de convaincre la majeure partie de la population de s'engager dans la voie d'une sobriété volontaire. Et donc on voit qu'il y a une dimension tout à fait sociale, économique, politique, culturelle à la révolution qui est nécessaire pour parvenir à limiter nos émissions de sorte à ne pas dépasser un réchauffement de 2 degrés C en moyenne planétaire.
Sylvestre Huette, pour conclure, quelle approche rationaliste peut-on adopter face à cette question si cruciale dans quelque chose de l'ordre d'un catastrophisme éclairé?
Moi, je dirais que L'approche rationaliste est souvent perçue uniquement à travers le premier volet de cette révolution nécessaire, qui est le volet de la technologie, de l'industrie, des investissements à faire dans les énergies décarbonées. Mais cette approche qui se limiterait à cette dimension-là, en quelque sorte de l'offre d'énergie, serait semi-rationnelle, semi-rationaliste. Il faut absolument regarder en face les conditions sociopolitiques qui permettraient de contenir les consommations des populations, les consommations d'énergie, de matières premières, d'espaces naturels. Et on voit très bien que une approche rationaliste du sujet aboutit à considérer que les dimensions sociopolitiques et culturelles de cette révolution dans notre manière de vivre sont absolument indispensables. Et d'une certaine manière, l'irrationalité consisterait à croire que soit en ne faisant rien, sans changer nos modes de production, on va éviter la catastrophe climatique. Ça serait totalement irrationnel. Mais ce qui est aussi irrationnel, c'est de refuser de voir les dimensions socio-économiques, politiques, culturelles de la révolution nécessaire.
C'est sur ces mots que nous allons clore cette émission. Sylvestre Huet, je vous remercie. Divers rappels et points d'information. Je rappelle le numéro 217 de Raison Présente, Crise et Expertise, dans lequel Jean Jouzel propose une analyse intéressante du GIEC. Je renvoie au site de l'Union Rationaliste, dont l'édito actuel signé par Michel Leduc porte précisément sur le rapport du GIEC. Je renvoie bien sûr au blog de Sylvestre Huet et j'annonce que le 4 décembre, à l'ENS de la rue d'Ulm, le colloque annuel de l'Union Rationaliste aura lieu et s'intitulera « Science et politique ». Je remercie Peyré Legras, Claire Poinsignon et Xavier Lévesque qui ont rendu possible cette émission et je vous dis au mois prochain. Thank you.